Vous écoutez
RMC.
Lundi 18 mai,
l'info sur RMC.
Il est 8h02, c'est Céline Kallmann qui est là pour les infos. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Après les maternelles et primaires la semaine dernière, rentrée au compte-gouttes pour les collégiens aujourd'hui, mesures sanitaires strictes et port du masque obligatoire. 70 cas de fermeture d'école par précaution, précise ce matin Jean-Michel Blanquer. Dans ce journal également un témoignage, celui du père du garçon décédé de symptômes de la maladie de Kawasaki le 8 mai à Marseille. Il avait 9 ans, la famille envisage de porter plainte. Et puis l'Italie rouvre ses commerces, bars, restaurants, mais aussi des lieux de culte comme la basilique Saint-Pierre de Rome. Une reprise trop précipitée pour une partie des Italiens. Bienvenue à tous sur RMC. Plus de 2 mois que le réveil n'avait pas sonné, une partie des élèves de 6e et 5e retrouvent leurs camarades et professeurs au collège. Et comme en primaire, les mesures sanitaires sont drastiques. On retrouve Anaïs Denet devant le collège Debussy à Angers. Anaïs, un tiers seulement des élèves de 6e et 5e reprennent ce matin.
Oui, les élèves dans ce collège d'Angers, ils vont arriver ici d'une minute à l'autre. Vous le voyez sur cette image de Pierre-Emmanuel Bessé. Ils vont passer cette grille. Il y aura prise de température, évidemment. Si c'est au-dessus de 37,8, eh bien, ce sera retour à la maison, confinement. Si ce n'est pas le cas, ils rentrent à l'intérieur. Ils enlèvent leur masque personnel. L'établissement leur fournira ensuite 4 masques pour la journée. Ensuite, dans la cour, eh bien, il y a un marquage au sol. Ils se positionnent à l'intérieur, attendent le signal pour rentrer en classe. Ils restent toute la journée dans la même classe. Ce sont les professeurs qui bougent avant de rentrer en classe, évidemment. Eh bien, lavage des mains, table à 1 mètre de distance, et ensuite sur chaque table, de façon nominative, eh bien, il y aura une visière, un masque, double protection pour ces élèves pendant leurs heures de cours. Et puis ensuite le self le midi à l'intérieur du bâtiment, eh bien, ce sera un plateau pareil sur une table, tout seul pour manger, pas de pique-nique. La nourriture ce midi est fournie par l'établissement.
Anaïs Denet avec Pierre-Emmanuel Bessé pour RMC. Un masque, pas d'embrassade, donc, mais qu'importe. Margot, élève de 5e à Nice, va s'adapter avec sa maman Sandra. Elles sont impatientes de reprendre un rythme un peu plus normal.
On peut dire que c'est comme une nouvelle rentrée. Les amis, d'habitude, qu'on se voit, on se fait des câlins ou on se fait des bisous pour dire bonjour. Là, il y aura les 1 mètre de distance, donc ça va être un peu plus différent.
Je suis contente qu'elles reprennent. L'idée, c'est quand même reprendre le chemin de l'école, c'est reprendre le chemin de la vie, d'une certaine façon, la vie ordinaire. Que chacun, à nouveau, retrouve un peu la place à laquelle il est convié, en fait.
Et 70 cas de fermeture d'école par précaution, précise ce matin Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. À Fleury-les-Aubrais, les collèges n'ouvriront pas. Décision de la maire de la ville, par précaution. Là aussi, fermeture aussi des écoles primaires après la découverte d'un foyer de contamination dans un abattoir. 34 cas de Covid-19 détectés. 69 aussi dans un autre abattoir situé, cette fois dans les Côtes d'Armor. Au total, 25 foyers de contamination identifiés sur tout le territoire, dont l'un à Compiègne, dans l'Oise, dans un foyer de travailleurs étrangers. Tout le monde a très vite été testé. Nicolas Repère.
C'est début mai qu'un premier membre du foyer est détecté malade du coronavirus. Quelques jours plus tard, un deuxième cas est signalé. Éric Niquez, le directeur de l'établissement, décide alors d'agir.
Je vais tout de suite, bien sûr, confiner l'étage. Et on a donc pris l'initiative donc de demander à l'ARS de tester l'ensemble du foyer, c'est-à-dire un peu plus de 200 personnes.
Résultat, 12 personnes au total sont testées positives. Un moindre mal, reconnaît le directeur du foyer.
Tout s'est fait quand même de façon assez rapide, parce qu'on l'avait anticipé. Moi, ce que je voulais absolument éviter, c'est d'avoir 200 personnes contaminées. On est par contre probablement passé à 2 doigts d'une catastrophe qu'on aurait si on n'avait pas testé l'ensemble du foyer.
Les 12 malades ont été placés à l'isolement. Les résidents vont, eux, être confinés à leur étage.
RMC 8h06, il a décidé de parler malgré la douleur pour alerter les autres parents. C'est un père anéanti qui prend la parole ce matin. Son fils de 9 ans a succombé le 8 mars dernier à Marseille à une forme proche de la maladie de Kawasaki. Des symptômes décrits chez des enfants ayant été en contact avec le coronavirus. À ce jour, 144 cas ont été répertoriés selon la Direction Générale de la Santé. Ce papa s'est confié à nos confrères de BFM TV pour alerter aussi les autorités.
Je ne souhaite à aucun parent de vivre une tragédie pareille. C'est parti d'une fièvre, une interne. Elle est arrivée, elle a commencé à l'examiner. Elle a déshabillé, elle a regardé toutes ses plaques rouges, ses boutons rouges. Elle n'était pas très rassurée. On est rentré à la maison. Le petit, il a commencé à avoir la tête qui va en arrière. Il a les yeux qui tournent. Les pompiers, ils étaient directement sur place. Ils ont fait très vite. Ils l'ont pris en charge, on l'a mis sur le brancard. Ils ont vu qu'il ne respirait plus. Il avait on ne trouvait plus son pouls, le cœur il avait arrêté de battre. Il a été admis en service de réanimation à l'hôpital de la Timone. Le diagnostic était que mon fils est tombé dans une mort cérébrale, il n'y a plus rien à faire. J'ai demandé, est-ce que vous avez trouvé à quoi ça a été dû? Le médecin m'a dit qu'il s'avérerait que les symptômes ressemblent aux symptômes du Kawasaki. Mon fils n'avait pas d'antécédent médical, il était en parfaite santé.
Et juste après le journal, le professeur Damien Bonnet, chef du service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris, sera Jean-Jacques votre invité. Dès la semaine prochaine, le gouvernement va réfléchir à un plan pour améliorer les conditions de travail à l'hôpital. Un plan santé avant l'été. Il est notamment envisagé de déplafonner les heures supplémentaires aujourd'hui limitées à 15 heures par mois. Mais les soignants, eux, ne réclament qu'une seule chose, une revalorisation significative des salaires. Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmier, l'a dit ce matin sur RMC.
Nous, ce que l'on attend, c'est le différentiel de salaire entre une infirmière française et le salaire moyen infirmier européen, c'est-à-dire 300 euros par mois. On est sous-payé en France. Il y a eu ces parlementaires qui ont lancé un appel au don de RTT qui serait transformé en chèque cadeau via une usine à gaz. Non, pas du tout. Nous, on est pour la reconnaissance de nos compétences, de nos responsabilités, de notre engagement au quotidien. Et donc, on veut être payé correctement par l'État employeur.
C'est aujourd'hui que les 30 000 équipes municipales élues dès le premier tour, le 15 mars dernier, vont entrer en fonction. Un décret a été publié aujourd'hui au journal officiel vendredi, début d'une période de transition. Donc, mais ça y est, les conseillers municipaux vont enfin pouvoir mettre les pieds en mairie, préparer le début de leur mandat. Reportage au Chesnay-Rocancourt dans les Yvelines, Juliette Pietraszewski et Pierrick Bonneau.
9 élus, pas un de plus pour respecter les règles. Lunettes de soleil sur le nez, nous sommes dans le jardin de Véronique Siadou, future adjointe aux affaires sociales.
C'est notre première réunion ensemble. Là aujourd'hui, on sait que ça y est, on y est. Mais c'est vrai qu'on est quand même plusieurs semaines avec beaucoup d'incertitudes.
Ce matin, le nouveau maire Richard Delpierre va enfin pouvoir se rendre en mairie. Mais pas facile de reprendre le flambeau en pleine crise sans avoir eu accès au dossier.
Nous aurions aimé, quand on a vu le temps qu'allait durer ce confinement, pouvoir préparer la suite, parce qu'on savait qu'on avait la suite à préparer, et notamment le vote du budget. Le fait de ne pas pouvoir avoir eu accès ni au service, ni au dossier, a été un peu compliqué à gérer, mais on arrive à la fin de cette séquence.
Benoît Ribert, futur adjoint à la transition écologique, a hâte de passer aux choses sérieuses.
Mais il y a un mélange de plein de choses, il y a de l'envie, et il y a une vraie frustration quand même qui s'est construite.
Là, on est effectivement dans une attente qui est compliqué à gérer finalement pour tout le monde. On ne sait pas comment tout va se mettre en place.
Priorité de la nouvelle équipe, le vote du budget et la rentrée scolaire. Une fois passé le conseil d'installation qui aura lieu au plus tard dans 10 jours, le 28 mai.
Et puis c'est aujourd'hui également que les agences Pôle emploi rouvrent à nouveau leurs portes. Attention uniquement sur rendez-vous. Nouvelle étape de déconfinement en Italie. La plupart des activités économiques comme les magasins, les bars ou les restaurants vont redémarrer. Une activité quasi normale, plus ou moins bien accueillie par les Italiens. Cyprien Pezzeril.
Au programme de la journée pour Marie-Véronique, retourner dans sa librairie préférée de Milan.
J'ai très envie d'aller m'acheter de nouveaux livres. Toutes les librairies étaient fermées pendant le confinement. Le seul endroit où on pouvait trouver des livres, c'était dans certains grands supermarchés. Mais c'était un choix quand même extrêmement limité.
Les lieux touristiques, les bars, les restaurants rouvrent aussi.
Faut pas aller trop vite.
Mais Christine craint que cette relance de l'activité soit trop soudaine et donc risquée.
Je ne veux pas me mettre dans un lieu fermé. Je trouve que c'est pas mal en fait de prendre son verre à emporter et d'aller s'asseoir à l'écart et d'aller le consommer comme ça. Moi je me sans dans le doute de savoir si je suis contagieuse ou pas.
Réponse du Premier ministre Giuseppe Conte, l'Italie ne peut pas rester éternellement sous cloche.
Nous sommes confrontés à un risque calculé, sachant, et je le dis très sincèrement, que la courbe épidémiologique pourrait à nouveau repartir à la hausse. Mais nous devons accepter ce risque, sinon on ne pourra jamais redémarrer.
Prochaine étape le 3 juin, la réouverture des frontières. L'Italie sera alors un des premiers pays européens à passer ce cap.
Dans l'actualité également à Besançon, la mort par balle d'un adolescent de 17 ans alors qu'il se trouvait devant l'entrée d'un immeuble situé à Planoise, un quartier sensible de la ville. Le tireur a pris la fuite.
Bien, merci Céline.